Bonjour à vous, bonjour à Radio, aux auditeurs de Radio Shalom qui me font l'honneur de m'accueillir, Alain David, hein, comme l'émission très à propos. Et ce matin, je me propose de parler de trois choses. La première, nous sommes le 20 avril, au moment où on enregistre. C'est-à-dire le lendemain du 19,
exact.
C'est-à-dire le 83e anniversaire du soulèvement de Varsovie qui a eu lieu, qui a commencé le 19 avril 1943. Donc je voudrais dire quelque chose là-dessus. Et puis, on vient de sortir d'une séquence politique particulière. Enfin, les séquences politiques, il y en a beaucoup, hein, et je ne vais pas parler de toutes les séquences politiques, même si beaucoup se rapportent à l'activité de la LICRA et également par rebond à celle de Radio Shalom. Mais je pense en particulier à l'épisode Loi Yadan, la proposition de Loi Yadan qui vient non pas d'être retoquée, mais le débat a été déplacé, reporté à plus tard parce qu'il y avait trop de choses là-dessus. Alors je ne parlerai pas tant de la loi elle-même, les députés en parleront, les juristes ont un avis, je ne suis ni député ni juriste, mais je voudrais évoquer la pétition, parce que c'est en soi un événement, la pétition qui a eu lieu par rapport à la loi Yadan, contre la loi Yadan, pour demander la suppression de cette proposition de loi. Alors, je voudrais en dire quelque chose. Et puis, last but not least, comme on dit en bon français, l'événement qui aura lieu à Dijon la semaine prochaine à l'initiative de la LICRA, le 28 mai, le mardi 28 avril, je me reprends. C'est ça quand on n'a pas un texte écrit. Le mardi 28 avril à 20h aux archives municipales, un spectacle autour du journal d'Etilsum. Je vais parler un peu d'Etilsum et de ce spectacle tout à l'heure. Alors, commençons par le ghetto, le soulèvement du ghetto de Varsovie. Je vais lire un texte, le texte d'un communiqué qui a été fait par une association parallèle à la LICRA, plus jeune que la LICRA, mais qui a eu le mérite de faire un communiqué national sur l'événement du soulèvement du ghetto de Varsovie, le RAR, le Réseau d'Action contre l'Antisémitisme et tous les racismes. Je voudrais, alors c'est un réseau qui politiquement se situe plus à gauche comme moi, pas en particulier, mais mais enfin j'y participe quand même parce que la cause est bonne. Ils veulent lutter contre l'antisémitisme actuel et notamment contre l'antisémitisme à gauche. Alors qu'ils viennent même, beaucoup d'entre eux viennent d'extrême gauche. Mais
ce qui est paradoxal.
Il y a pas. Non, c'est pas paradoxal. Il n'y a pas de, de fatalité à ce que la gauche soit antisémite. Je dirais même, à mon avis, le contraire. Quelqu'un qui, si la gauche, si on identifie la gauche à la générosité, au souci pour l'autre, à l'humain. Contre peut-être un réalisme un peu matérialiste ou matériel de la droite, eh bien, on devrait penser au contraire que cet idéal de générosité exclut l'antisémitisme. Or, nous voyons au contraire qu'aujourd'hui, des gens qui se réclament de gauche non seulement n'excluent pas l'antisémitisme, mais l'acceptent et même en font une sorte de fonds de commerce électoral. Alors, c'est un autre débat d'ouvrir comme ça. Mais en tout cas, ce groupe, ce RAR, ce réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, a donné un communiqué que je me propose de lire parce que je crois que la LICRA, à bien des égards, pourrait le faire sien.
Bien sûr.
19 avril 1943, le ghetto de Varsovie se révolte. Du 19 avril au 16 mai 1943, une poignée de militants et militantes juifs et juives ont tenu tête à l'armée allemande dans le ghetto de Varsovie. Nos organisations RAR, donc je viens d'en parler du RAR, et UJRE, alors UJRE c'est une vieille association qui est née pendant la guerre, Union des Juifs contre le racisme et pour l'entraide, leur rendent hommage en un moment où la question de l'antisémitisme revient hanter nos sociétés. Les Juifs représentaient le tiers de la population totale de la capitale polonaise. Après l'arrivée des armées allemandes, les nazis enferment les Juifs dans le ghetto, qui va comprendre plus de 400 000 personnes. Les conditions de vie y sont terribles. La mort règne par la faim ou les maladies, quand elle ne vient pas des assassins nazis. En juillet 1942, commencent les déportations vers Treblinka, le camp d'extermination le plus proche de Varsovie. C'est à ce moment que de jeunes juifs et juives décident de s'organiser pour résister. Le principal mouvement est constitué par l'Organisation juive de combat, OJC. Elle rassemble des militants bundistes, communistes, sionistes. Elle compte dans ses rangs 600 à 700 insurgés. Une organisation de droite, AMJ, en compte une centaine. C'est à l'ensemble de ces combattants et combattantes que nous rendons hommage aujourd'hui. Après divers accrochages avec les occupants, le combat décisif va avoir lieu à partir du 19 avril 1943. L'armée allemande pénètre dans le ghetto avec l'ambition de le détruire rapidement. La date choisie est pensée pour offrir une victoire facile à Hitler, dont l'anniversaire tombe le lendemain. C'est sans compter sur la résistance juive qui obligera l'armée nazie à combattre durant 4 semaines. Le ressenti des insurgés est résumé par un des combattants de l'OJC, Arié Wilner. Nous ne voulons pas sauver notre vie. Personne ne sortira vivant d'ici. Nous voulons sauver la dignité humaine. La lucidité de ces militants et militantes qui ont compris le projet exterminateur du nazisme n'entame pas leur courage et leur détermination qui forceront l'admiration dans l'Europe occupée. Quelques jours après le début des combats, les insurgés du ghetto célèbrent le 1er mai par un appel au peuple du monde, le tout dans une ambiance particulière retracée par un des rares survivants, Marek Edelman, du Bund. Bref discours, l'international. Le monde entier fête cette journée, mais jamais encore l'international n'a été chanté dans des conditions aussi tragiques dans un lieu où un peuple est mort et n'en finit pas de mourir. L'armée allemande finit par prendre le dessus. Le 8 mai, une partie de l'état-major de l'organisation juive de combat se donne la mort, suivant ainsi l'exemple des derniers combattants de la forteresse juive de Masada en lutte contre les Romains en l'an 73. Le 16 mai, la grande synagogue de Varsovie est incendiée. C'est la fin du ghetto et de sa résistance. Quelques jours plus tôt, le 12 mai, ayant appris l'écrasement des Juifs, le représentant du Bund auprès du gouvernement polonais en exil à Londres, Samuel Siegelbaum, se suicide, laissant un dernier message. La responsabilité du crime que constitue le massacre de toute la population juive retombe en premier lieu sur ceux qui le commettent, mais ce crime est aussi un fardeau qui pèse indirectement sur l'humanité entière. Ce cri de désespoir, le monde ne l'entend pas. Ce silence d'alors continue de nous hanter alors que le monde d'aujourd'hui est redevenus perméables à l'antisémitisme et au racisme. Pour nous, c'est un devoir de rendre hommage à ces insurgés sans espoir de vaincre, combattants de la dignité humaine. Mais ce n'est pas que cela. La mémoire de la Shoah a longtemps représenté une barrière contre le fascisme, l'antisémitisme, tous les racismes. À l'heure où les vents mauvais menacent à nouveau le monde, faire barrage à l'extrême droite au nom du passé demeure une tâche essentielle pour tous les progressistes. Pourtant, aujourd'hui, la mémoire d'Auschwitz et de Treblinka se trouve brouillée par des comparaisons ineptes avec les drames du présent. Nous dénonçons les crimes d'aujourd'hui, mais nous savons qu'ils ne sont pas comparables à ce que fut le nazisme et sa volonté exterminatrice. Porter la mémoire de ce que furent les combattants du ghetto, c'est aussi affirmer que les Juifs et les Juives furent nombreux à espérer dans les idéaux d'émancipation. L'unité des gauches juives face à la pire extrême droite est une des leçons à tirer de ces événements. Que penseraient ceux et celles qui chantaient l'Internationale le 1er mai 1943 en entendant certains discours d'aujourd'hui qui osent se réclamer de la gauche tout en produisant de l'antisémitisme. C'est pourquoi notre hommage aux combattants du ghetto de Varsovie est aussi un message d'inquiétude, alors que l'antisémitisme est revenu en force dans notre monde. La mémoire de nos camarades de l'organisation juive de combat est à la base de notre combat inébranlable contre l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, mais aussi contre tous les racismes. Nous continuerons d'agir pour la faire vivre dans les luttes d'aujourd'hui. Voilà ce texte, donc, qui est un texte qu'on entend quand même de militants de gauche, hein, en sens pas tout à fait celui de la LICRA quand même, puisque la LICRA considère que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme n'est pas réservée à une orientation politique particulière, mais est le fait de tout le spectre politique de la société, disons le spectre
humain,
démocratique et républicain de la société, et le spectre humain.
Humain aussi,
comme
on
tu
peut,
dis, oui,
on
comme peut, vous dites, on, oui, bien sûr, comme vous dites. Et que quand on sort de ces limites-là, on sort un peu de ce qui constitue l'humanité.
Bien sûr.
Et alors, effectivement, ce retour de l'antisémitisme, ne serait-ce que parce que les chiffres le montrent, même si on ne sait pas très bien ni les interpréter, ni même les qualifier. Quand je donne un exemple pour le ministère de l'Intérieur, les statistiques du ministère de l'Intérieur, eh bien... il y a 50, si je ne me trompe pas sur les chiffres, ça doit être ça, 53% des actes anti-religieux concernent l'antisémitisme. Alors, je suis personnellement sidéré par cette qualification. L'antisémitisme n'est pas un acte anti-religieux. Le judaïsme peut être qualifié de religion,
exact.
Mais c'est tout autre chose encore qu'une religion.
On parle de population. L'antisémitisme, c'est vraiment être anti, enfin, comme vous en avez parlé, être anti-juif, entre guillemets. Mais là, on parle plus ne serait-ce que de la religion, mais là, on part de l'au-delà. Là, on va carrément sur l'humain. Et est-ce que vous avez lu tout à l'heure sur les ghettos de Varsovie, la quantité de personnes qui étaient... qui a été mis à peu près 400 000 personnes, si je ne me trompe pas.
Oui.
Elle la représente parfaite d'une forme de racisme qui ne concerne même plus la religion, mais qui concerne une population.
C'est un antisémitisme racial.
Exactement.
À cette époque, même si il y a beaucoup d'intérêt à défendre la thèse ou à mettre en évidence la thèse que l'antisémitisme n'est pas un racisme. Un racisme est orienté sur la reconnaissance
Sur une haine, sur une haine oui. vis-à-vis d'une population, d'une catégorie.
Oui, la reconnaissance fantasmée, chercher le mot fantasmatique, d'une race. Alors, on a parlé au cours du 19e, du 20e siècle, enfin, depuis le 19e siècle, de la race juive, mais on a essayé d'accoler le thème de la pensée raciste ou raciale, entre guillemets, je figure les guillemets, ça ne se voit pas à l'antenne, mais une pensée raciale, on l'a accolé, on l'a superposé à l'antisémitisme parce que c'était là, mais c'est bien plus. C'est bien plus parce que si je prends l'exemple du racisme contre les Noirs, il y a le racisme anti-noir. Si vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas frappé par le racisme, vous n'êtes pas touché par le racisme anti-noir. Mais que se passe-t-il pour les Juifs? Alors, on pourrait dire si vous n'êtes pas juif. Oui, mais attention, il n'y a pas que les Juifs dans le langage de l'antisémitisme. Il y a les Juifs et les enjuivés, c'est-à-dire ceux qui sont sous influence, ceux qui sont au service d'eux. Et finalement, on ne sait jamais tout à fait qui est juif ou pas. Alors, on va reconnaître les Juifs à quoi? Alors, l'antisémitisme, je pense au film de Azavanicius, OSS 117, le deuxième, avec Jean, qui était excellent, OSS 117, qui est la figure du beauf, qui est raciste, nationaliste,
rempli de clichés,
oui, rempli de clichés sexistes, et enfin il a tout pour plaire, et évidemment il est antisémite, et quand on lui militaire, une femme militaire de l'armée israélienne qui se propose de poursuivre avec lui, de chasser, de faire la chasse avec lui à un ancien nazi, et Jean Dujardin, OSS 117, oui, se met à rire en disant quelle drôle d'idée, poursuivre un nazi avec un juif, avec des juifs, mais quelle drôle d'idée, pourquoi? Ben, il va tout de suite les reconnaître. Mais à quoi? Alors là, il sort toute la panoplie des clichés. Ben, je ne sais pas, le nez, la bouche, etc. Alors, si on laisse de côté ces clichés traditionnels de l'antisémitisme, il y a le nom. L'enracinement dans une culture, le nom des noms juifs. Ben, attention, il y a des noms qui paraissent juifs et vous prenez un nom comme Klein. Je pense au film Monsieur Klein.
Oui.
Klein, ça, si je le prononce à l'allemande, puisque c'est un mot allemand,
Klein.
Ça dit Klein, bien sûr.
Klein.
Et Klein, ça veut dire petit. En allemand, Klein n'est pas un nom juif. Il est aussi peu juif que pourrait l'être Monsieur Petit.
Oui.
Si je traduis. Mais en France, il devient un nom juif. Ou encore, il y a l'histoire le mot de Göring pendant la guerre. Si un seul avion survole l'Allemagne, un seul avion allié survole l'Allemagne, alors je le dis en allemand, Dann will ich Meyer heißen, alors je veux bien m'appeler Meyer.
Meyer,
mais
oui.
Meyer, Meyer en allemand, c'est pas juif, non. C'est comme Dupont. Je veux bien, comme si je disais, si un seul avion survole la France, je veux bien m'appeler Dupont. Voilà ce que dit Göring à ce moment-là. Mais Meyer en France,
a une connotation qui amène à ce que
c'est un nom qui passe pour être un nom juif. Et puis, il y a cette blague que je vais raconter rapidement, et puis je vais revenir à mon propos. Cette blague du juif qui a un nom très connoté, Moshe Lévy, mettons, Moshe Lévy. Alors, il trouve que c'est un peu trop connoté. Et il fait des pieds et des mains pour changer son nom et il finit par obtenir de s'appeler Jean Dupont. Six mois après, il retourne à l'état civil et demande encore à changer. Mais pourquoi Jean Dupont, c'était très bien que vous voulez vous appeler comment Pierre Durand. Mais pourquoi Pierre Durand, Jean Dupont, c'était très bien. Oui, mais je voudrais pouvoir répondre quand on me demandera comment je m'appelais avant. Comment je m'appelais avant. Et pour dire les choses de façon un peu plus littéraire, il y a un passage dans La recherche du temps perdu de Proust où le grand-père du narrateur répond. Alors son petit-fils lui dit qu'il a invité, c'est-à-dire le narrateur, qu'il a invité un copain. Et comment s'appelle-t-il, ton ami? Dumont, grand-père. Dumont, ah, je me méfie. Toujours cette histoire, comment il s'appelait avant, ou qu'est-ce que cache ce nom qui apparemment a toutes les consonances, toute la consonance catholique qu'il faut.
Oui.
Voilà. Donc, on peut toujours, pour répondre à votre observation, on peut toujours considérer que l'antisémitisme frappe tous ceux qui sont considérés comme juifs et tous ceux qui sont enjuivés, c'est-à-dire la population tout entière. Ça fait beaucoup de monde parce qu'on peut toujours soupçonner que quelque part l'influence juive s'exerce. Voilà le fantasme de l'antisémitisme. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, sur quoi on était parti.
On discutait sur. J'avais parlé donc juste avant donc le ghetto de Varsovie, donc ce qui s'était passé, et du coup le fait que l'antisémitisme n'était plus juste une mouvance religieuse, enfin en tout cas une hantise vis-à-vis d'une religion, mais vis-à-vis d'un peuple, en tout cas. En fait, on en parlait juste avant, si je me trompe pas. Je commence à douter de comment l'antisémitisme a repris de la vigueur. Et j'allais répondre tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez. Moi, je parlerais de la médiatisation, complètement. C'est-à-dire que...
les réseaux sociaux, bien sûr. À partir de ce que j'ai essayé de faire valoir à l'instant sur la dimension universelle et paradoxalement universelle de l'antisémitisme. Oui, il y a 0,2%, je vais le dire très facilement, très clairement, il y a 0,2% de juifs dans le monde, 15 millions à peu près à la louche. 15 millions, ça fait à peu près 0,2% de la population mondiale. Il est évident, je crois, pour tout le monde, pour chacun, que la place de l'antisémitisme est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante que ce que représente cette faible population de juifs dans le monde. Ils sont partout. À quoi pendant la guerre avait fait écho le journal Je suis partout. Je suis partout parce qu'ils sont partout. Il s'agissait de faire autant de juifs potentiels, autant de fois faut-il dire je suis là. Je suis partout, ils sont partout. Eh bien, il y a une dimension de complotisme. On pourrait dire même, alors le complotisme est sans limite, hein, puisque justement le complotisme considère que les limites sont toujours franchissables, qu'on ne peut pas les arrêter, mais derrière le complotisme il y a toujours l'antisémitisme, même quand apparemment ça n'a rien à voir avec les juifs, ou apparemment ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, mais il y a toujours le fantasme que ils sont partout, Et alors, dans l'actualité récente, on a pu parler, il y a même un député qui s'est mouillé là-dedans, je crois, David Guiraud,
Oui.
Avec l'histoire des dragons célestes qui envahissent tout, hein, et ils sont partout. C'est, maintenant, il y a une expression qui est sortie, le dog whistle, c'est le sifflement du chien. On siffle le chien de façon imperceptible, mais le chien, il l'entend très bien. Et on donne des signes imperceptibles que tout le monde en face va pouvoir entendre très bien, sans nommer complètement la chose. Eh bien, c'est ça le registre actuel, et vous avez raison, sûrement raison, de dire... les médias et aujourd'hui, et notamment cette figure extrême des médias aujourd'hui, que sont les réseaux sociaux,
la médiatisation,
et tout prend une expression dont personne n'est responsable.
Dont personne, en tout cas, dont on ne peut pas. Enfin, les réseaux sociaux ne permettent pas directement d'inculper quelqu'un directement,
un seul
responsable. Par exemple, le dog whistle, ce que vous avez parlé d'avant, on pourrait parler de mouvance, en tout cas mouvance médiatique, mais mouvance des réseaux sociaux, qu'importe la définition. Mais en tout cas, c'est j'appelle ça un effet de troupeau de moutons. C'est-à-dire que bah, du coup, forcément, si un petit groupe commence à faire ce type de j'utiliserai encore le terme mouvement, c'est d'autres vont suivre, et donc forcément ça fait un effet
un effet d'accumulation, un effet de boule de neige.
Exactement.
Et plus personne ne sait qui a dit quoi, mais quand une rumeur prend de l'ampleur comme ça, quand une affirmation est répétée par 1 million de voix, elle devient une vérité. On pourrait remonter très loin dans le passé pour dire ça, cette histoire du passage du concept à l'être, c'est une vieille histoire de la tradition philosophique qui s'appelle, que Kant a appelé, la preuve ontologique. C'est-à-dire on passe d'une formulation à la réalité. Et ce qui donne crédit à cette réalité, c'est que la formulation a été rendue crédible. Et quand c'est répété 1 million ou 10 million de fois, comment ne pas considérer que c'est une vérité? Alors, je reviens un instant, on va terminer sur cette partie de l'émission, peut-être là-dessus. Je reviens au ghetto de Varsovie, au soulèvement du ghetto de la Varsovie. Alors, ça peut... Effectivement, c'est un moment héroïque, un moment... d'un certain folklore de l'histoire, d'un folklore, le mot n'est pas très bien choisi, mais c'est un souvenir de l'histoire, pour l'histoire, pour la mémoire. Était-ce très important du point de vue de la Deuxième Guerre mondiale? En un sens, non. Ça n'a pas fait bouger, ça n'a rien modifié de la stratégie des armées allemandes, ça n'a rien modifié de la stratégie des alliés. Et vous savez qu'on a par la suite constaté avec amertume que les alliés n'ont pas bombardé les voies ferrées menant dans les camps d'extermination, n'ont pas bombardé, n'ont rien fait contre, effectivement d'un point de vue militaire, n'ont rien fait contre ou par rapport à l'extermination. Donc en un sens, ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas eu d'incidence sur le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale.
Bien sûr.
Mais par ailleurs, c'est l'essentiel de ce qui reste de la Deuxième Guerre mondiale. L'extermination, ça n'a pas d'incidence politique, mais ça a une incidence humaine incomparable, extraordinaire. Et le rapport à l'extermination, la mémoire de l'extermination, c'est peut-être ce qui définit l'humanité. du 20e et
21e siècle à l'heure actuelle.
Du 21e siècle qui commence.
Comme je l'ai déjà entendu plusieurs fois vis-à-vis de d'amis passionnés en histoire, il y a eu l'humanité avant la Seconde Guerre mondiale, pardon, et une humanité après. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale a eu un impact sur le qu'importe les plans, que ce soit politique, militaire, surtout militaire, social, militaire, contexte militaire et social mondial et même politique mondiale, avec donc la création de la bombe atomique, on pourrait citer Hiroshima et Nagasaki, qui par la suite, du coup, a été l'une des premières utilisations vis-à-vis des populations, vis-à-vis une population donc japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, le 6 et le 8 août, ou le 6 ou le 9 août 1945, et même vis-à-vis de l'appréhension par rapport aux populations, comment en fait on est passé entre la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, donc à peu près, si je ne me trompe pas, les calculs sont bons, 15 ans, à peu près, 15, entre 15 et...
Entre 1918 et 1939,
à peu près 20 ans, on va dire 21 ans. Comme on est passé d'une première guerre mondiale où le conflit était basé donc sur un meurtre, sur une escalade entre guillemets vis-à-vis d'un événement, l'effet boule de neige, on en avait parlé juste avant, à une montée en masse du fascisme et du racisme, du fascisme, de l'antisémitisme aussi, hein. À cause des crises économiques, de la crise économique de 1928, si je ne me trompe pas, par exemple, qui est l'une des meilleures.
29.
Qui montre en fait que on en parlait juste avant, que si 1 million de personnes disent cette forme de vérité, enfin même si elle est pas forcément vraie, bah elle va devenir une vérité. Et c'est ce qui s'est passé lors de la crise de 1929.
On va en parler dans un instant, ça. Mmh. Je vous suis et on va en parler d'une autre manière dans un instant.
Bien sûr.
Vous avez raison. Je souscris moi à cela aussi. Que la Seconde Guerre mondiale, je dis la seconde, on dit seconde quand on pense qu'il n'y aura rien après. Autrement, c'est deuxième. Alors, il vaut peut-être mieux dire deuxième. On ne sait jamais. La Deuxième Guerre mondiale représente une ligne de partage. Il y a avant et il y a après. Peut-être qu'on n'a pas fini de subir les conséquences de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, je dis de nouveau seconde, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'extermination.
Ouais.
L'extermination, on n'arrive pas à savoir exactement ce que c'est.
Comment le définir?
Alors, il y a le grand film de Lanzmann qui ne s'appelle pas La Shoah, qui s'appelle Shoah. Comme si on ne pouvait pas mettre d'article, parce qu'un article définit trop, définit déjà, et en fait un concept. Et Lanzmann ne voulait absolument pas prendre l'événement comme un concept, il voulait le soustraire à l'explication, le soustraire à l'intelligibilité, ce qui pour l'université, pour la science, pour le travail historique, le travail historien des historiens, est paradoxal, voire choquant. Mais Lanzmann, qui ne pratiquait pas la nuance, et qui n'avait pas la langue dans sa poche, avait pu parler de la, je cite, « canaillerie universitaire ». Pourquoi la canaillerie universitaire? L'université est quand même un lieu respectable, un lieu de savoir, un lieu de tolérance, dit-on, en fait, etc. Mais parce que dès qu'on explique, on trahit. Dès qu'on explique ce qui s'est passé, on donne des raisons, On le justifie d'une certaine manière, on le légitime d'une certaine manière, et par là même on le trahit. Donc Lanzmann était extrêmement intransigeant, quoi qu'on en pense, on n'est pas forcé de suivre Lanzmann, mais en tout cas pour l'idée que ce qui s'est passé continue à nous habiter sans que nous sachions très bien comment.
C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de ce que c'est par exemple qu'une extermination, un génocide. Il y a l'aspect, lorsqu'on y pense, il y a l'aspect quantitatif. C'est-à-dire à partir de quelle échelle on considère qu'il y a ces événements-là, oui ou non. Et vous avez utilisé le terme...
Canaillerie.
Canaillerie,
oui. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est bien Lanzmann. Lanzmann.
Le fait
Claude
que...
Claude Lanzmann. Il y a aussi Jacques Lanzmann qui est un autre. Je crois que c'est son frère, peut-être. Oui, ça doit être son frère. Mais qui est un écrivain. Mais Claude Lanzmann, qui est le cinéaste, l'ami de Sartre, etc. Et qui est mort il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus quand.
Ça, je ne saurais pas le dire, je ne connaissais pas du tout. Mais ce dont vous en avez parlé était intéressant. Parce que le côté universitaire, qui est dans l'université, en soi, le principe de l'université, c'est les études, éducation. Et on travaille, comme dans tout milieu scolaire, on travaille notre aspect critique, comment on interprète, par exemple, des textes ou des événements. Et le fait que Lanzmann, si je ne me trompe pas du nom, hein, c'est bien Lanzmann, partait du principe que du moment qu'on en parlait, on mettait déjà une critique, si je ne me trompe pas, hein, si c'est bien
une
ça.
Une explication.
C'est ça, donner directement une explication, qui soit valide ou non, ça donnait directement une explication. Sur ça, je suis mitigé.
Beaucoup sont mitigés, je donnais pour dire, pour figurer notre difficulté à recevoir l'événement qu'on ne sait pas qualifier, qu'on a du mal à qualifier, j'évoquais celui qui a trouvé le mot Shoah, qui a répandu le mot Shoah avant 1986, c'est-à-dire la date de sortie du film de Lanzmann. On ne parlait pas de Shoah. Le monde anglo-saxon parle d'Holocauste et pas de Shoah. On parlait d'extermination. L'événement a eu du mal à trouver sa place, et d'une certaine manière, sa place, c'est plutôt qu'il n'a pas de place. La place de cet événement, c'est qu'il n'en a pas. Qu'il faut faire mémoire, et que même faire mémoire de ce qui ne figure pas, c'est quelque chose de difficile. Alors du coup, ce 19 avril 1943, qui revient dans la liste de nos commémorations, événement, il faut marquer le coup. Voilà.
Bien sûr. Il
faut marquer le coup, ça a un intérêt, non seulement dans le florilège des événements comme la prise de la Bastille, si vous voulez, mais il faut marquer le coup de cet événement parce qu'il dessine une ligne de fracture, une ligne de séparation entre hier et aujourd'hui.
Exact. Totalement.
Alors, pour dire encore, et je vais m'en tenir là, pour marquer combien c'est difficile, j'ai cherché hier sur Internet, 19 avril 1943. Que s'est-il passé 19 avril 1943 ? J'ai trouvé dans une des fenêtres ouvertes, il ne s'est rien passé. Dans une autre, c'est l'anniversaire de Jane Mansfield, qui était née le 19 avril 1933. Alors, elle a 10 ans, Jane Mansfield a 10 ans. Mais c'est tout ce que Internet me livrait, là. Alors, quand même, le 19 avril 1943, le soulèvement du ghetto de Varsovie. Voilà.
C'est à quel... Ça montre, par exemple, à quel point il y a un manque de... Alors, déjà, de fiabilité de recherche. Donc, c'est-à-dire de trouver forcément des bonnes ressources, donc des bonnes archives. Et même au-delà de ça, ne serait-ce que essayer de trouver des événements qui ont quand même une importance, parce que le ghetto de Varsovie, lorsqu'il y a eu le soulèvement, même si on parle d'un événement qui n'a pas eu un réel tournant lors de la Seconde Guerre mondiale, il a eu un tournant sur l'aspect humain.
Oui, complètement.
Sur l'aspect humain, sur l'aspect qu'une population qui est en train d'être décimée, complètement, par des idéologies, par des concepts qui sont tellement subjectifs, enfin même pas subjectifs, juste irréalistes, et même des concepts qui sont purement racistes, antisémites, on en parle pas, c'est le sujet, donc autant le citer aussi, que l'Internet n'a pas forcément cette capacité de fiabilité qui a forcément dans un livre.
Ce que vous mettez en évidence, là, et puis on va s'en tenir là sur ce sujet, peut-être, mais ce que vous mettez en évidence, et comme ancien professeur, je vous rends grâce, c'est la place du professeur, la place de la pédagogie, la place de la signification de la culture, qui ne se ramène pas de l'information. Internet nous donne des informations. Formation. Et une accumulation d'informations, une information valant une autre information à un coefficient près. Mais une information ne nous permet pas d'être qui nous sommes, ne me permet pas d'être qui je suis, c'est-à-dire devant mon avenir et devant mon passé, sachant qu'on a souvent le passé de l'avenir qu'on se donne. Le passé de l'avenir qu'on se donne. Donc là, c'est la place de la parole du professeur, la place de la parole du pédagogue qui lit des livres et qui ne transforme pas simplement les livres en un amas d'informations. Le soulèvement du ghetto de Varsovie nous dit quelque chose que éventuellement Internet ne recueille pas.
Toutes
le 19 avril 1943, il ne s'est rien passé. Ah si, les 10 ans, l'anniversaire de Jane Mansfield, qui avait 10 ans ce jour-là.